Le Monde aujourd'hui avec Julien Corona.
Le Monde d'aujourd'hui, Radio FM, Julien Corona au micro et Daniel Fortin à la réalisation, comme tous les vendredis à 11h30. Et notre invité du jour, c'est Frédéric Bruno, le professeur de philosophie au Collège André Laurendeau et professeur associé à l'École des médias de l'UQAM. Bonjour Monsieur Bruno.
Bonjour.
Donc avec vous, on va discuter du sujet d'intelligence artificielle. C'est un sujet qui est sur la lèvre de beaucoup de personnes en ce moment, qui révolutionne la manière de faire dans beaucoup d'emplois, dans la recherche sur Internet et tout le tralala qu'on peut voir dans les médias à propos, et dans l'actualité, à propos de cette intelligence artificielle. Ça révolutionne beaucoup de choses. Vous allez pouvoir nous faire un peu un topo sur ce sujet et aussi discuter d'un travail que vous avez à cœur sur ces questions de l'intelligence artificielle, une de vos spécialités, à propos de l'éthique de l'intelligence artificielle, parce que manier et comprendre l'intelligence artificielle nécessite une véritable formation, surtout pour les chercheurs dans le cadre de leurs travaux de recherche. Donc on pourra discuter de ça en seconde partie d'entrevue. Tout d'abord, ma première question est assez simple, surtout sur le sujet de la... c'est vraiment simple, c'est quand on parle d'IA, de quoi parle-t-on?
C'est une excellente question. La question est simple, la réponse peut-être un peu moins. En fait, il n'y a pas de consensus sur la définition de l'intelligence artificielle et en réalité, c'est un concept lui-même là, qui a plusieurs formes et qui est en partie un concept marketing. Évidemment, si on veut quand même fournir une définition, c'est des systèmes. Ce sont des systèmes prédictifs qui sont en mesure de réaliser certaines tâches avec une certaine forme d'autonomie. Et donc, qu'on peut automatiser.
On n'en est pas encore au cerveau positronique qu'on voit dans les films de science-fiction ou dans les Star Trek de ce monde.
Oui, ça fait un lien. En fait, la définition à l'origine, c'était de reproduire. Je l'ai toujours parfois, reproduire des tâches que seuls les êtres humains peuvent faire, qui est une définition en partie problématique parce qu'elle est un peu évanescente. Qu'est-ce que seuls les êtres humains sont capables de faire ou non? Puis cet ensemble change constamment. Ouais. Mais une des choses, c'est que l'idée de créer des machines qui peuvent penser ou de reproduire l'esprit humain, c'est un objectif qui a au moins en partie été abandonné là, dans l'évolution de l'intelligence artificielle et des différentes méthodes.
Mais c'est ça, mais de l'autre côté, si ça a été abandonné, il y a quand même beaucoup de chercheurs en ce moment qui ont des inquiétudes sur ce sujet, des spécialistes de l'intelligence artificielle, même des créateurs, par exemple, de ChatGPT, par exemple, en voyant la progression de ce système, ils ont assez peur en voyant. Donc, est-ce que c'est l'incertitude, ce genre d'inquiétude pose la question, est-ce qu'on est face à ce qu'on pourrait dire être une innovation responsable?
Il faut dire que ce ne sont pas des inquiétudes qui sont infondées parce qu'il y a toute une série de problèmes, de questions éthiques qui sont soulevées par le fonctionnement des
systèmes d'intelligence artificielle. Et on pourra y revenir ensuite.
Oui. Mais pour ce qui est de créer des machines qui peuvent, ce qu'on appelle parfois l'intelligence artificielle générale, donc une intelligence artificielle qui pourrait exceller ou même dépasser les capacités humaines dans une panoplie de sphères comme les êtres humains que nous sommes capables de le faire. D'abord, on n'en est pas là. Évidemment, avec le développement tout récent de l'IA générative, dont le plus connu, le ChatGPT, on se rend compte que on a passé une étape vers des systèmes qui sont capables d'exceller dans différents domaines, ou avoir des capacités émergentes, mais on est encore très loin de ce qu'on pourrait véritablement appeler une intelligence artificielle. tutelle générale.
C'est ça, on est encore très loin, oui. Mais sur la question de, on voit les progrès que ça a apporté. On voit par exemple qu'en utilisant des chatbots comme ChatGPT ou d'autres, que ce soit ceux hébergés par Microsoft, ceux par Google, bientôt celui par Twitter même, parce que Elon Musk dit que certains systèmes de génération automatique sont trop woke à son goût. C'est quand même assez drôle de voir aussi cette guéguerre-là qui se met sur l'intelligence artificielle. Mais on voit par exemple des avocats qui arrivent à préparer leur plaidoirie avec une génération automatique faite par ces systèmes. On voit des livres ou des chapitres de livres qui sont faits de la sorte. On voit même des éléments, des chansons qui sont auto-générées faisant croire que c'est véritablement tel ou tel artiste qui chante dessus. Le phénomène Weeknd plus Drake a pu être assez dans les médias dans les dernières semaines. Donc, est-ce qu'on est déjà sur un niveau où on a une IA qui est dans ses balbutiements, qui fait déjà mieux dans certains domaines que l'être humain?
Oui, ça c'est sur des tâches spécifiques ou dans certains domaines, elle peut faire mieux ou plus rapidement en fait, par rapport à la question de l'intelligence artificielle générale, c'est notamment là, notamment alimenté. Par, on faisait référence là au cinéma un peu plus tôt là. Bon, donc c'est des images de Terminator et
Skynet.
C'est ça. Donc, je suis de ceux qui pensent qu'il faut s'enlever cette image-là, de la tête-là. Oui. Pas pour dire qu'il n'y a pas de problème, pas pour dire qu'il n'y a pas de, il y a pas des sources de préoccupation quand on se rend compte que, bon, on peut avoir un chatbot comme ChatGPT qui est capable de faire ces choses-là.
Ouais.
Ça vient chambouler notre idée des droits d'auteur, ça vient chambouler notre idée de la création, etc. Il faut se poser toutes ces questions-là. Mais je pense que il faut éviter là, de
partir dans la caricature.
Oui, c'est ça.
Et donc, au niveau des bouleversements que ça peut apporter, l'IA, on parle souvent un peu de la question un vecteur de croissance ou de perte d'emploi, une gouvernance de plus en plus accrue par les algorithmes au lieu d'une pensée intuitive humaine, une médecine du futur, une hausse de l'espérance de vie, tous ces éléments-là. Comment vous voyez les bouleversements que ça peut apporter? Est-ce que vous êtes confiant que ça va participer à une amélioration des conditions de vie?
Ben, je crois que pour la première partie de la question, il était plus simple de faire la liste des sphères d'activité qui ne seront pas touchées.
Ça sera plus court.
Ben, c'est probablement que la liste est pas loin d'être très courte, voire peut-être qu'elle est complètement vide. En fait, c'est ce qui est fascinant avec ce domaine d'études, c'est qu'on se rend compte, plus on fouille, plus on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose, finalement, qui n'est pas d'une façon ou d'une autre impacté par le développement des différents systèmes d'intelligence artificielle. Maintenant, il y a très certainement là, des aspects positifs, des aspects bénéfiques au développement de je vais prendre un exemple, là, de systèmes d'intelligence artificielle qui permettent d'analyser des radiologies pour détecter plus rapidement des cancers ou détecter des cancers que bon les radiologues seront incapables de détecter à l'œil nu, etc. Donc dans tous les domaines c'est la même chose. Donc il faut tirer ces bénéfices là. Il y a peut-être même quelque chose de moralement questionnable, peut-être même problématique, à ne pas le faire si on est en mesure de le faire. Mais pour répondre à la question, est-ce que ça sera pour le bénéfice ou non? Ben, en réalité, ça va dépendre à mon avis de la façon dont on va structurer la gouvernance de ces systèmes d'intelligence artificielle, la façon dont on va les encadrer, les évaluer et aussi. J'aimerais profiter de cette tribune pour insister sur le fait aussi que ça va en partie dépendre aussi de ce que j'appellerais la littératie numérique, parce qu'une partie de ça repose sur le fait que la population de tout le monde puisse comprendre comment ces systèmes-là fonctionnent, qu'est-ce qu'ils font ou qu'est-ce qu'ils ne font pas, qu'il y en ait une représentation qui est appropriée et qui n'est pas caricaturale et qui puisse que chacun d'entre nous, finalement, on puisse faire des choix éclairés en ayant une véritable compréhension de ce qui se passe.
Et donc, au niveau des choix éclairés, pour toute réflexion éclairée, soit il faut un bon cadre théorique, c'est un chercheur qui l'a dit. Et on parlait de régulation, on parlait d'encadrer l'utilisation de l'IA, avant de parler sur la nécessité d'avoir une éthique pour apprivoiser, pour comprendre et pour utiliser cette intelligence artificielle, que ce soit dans le cadre de la recherche ou dans le cadre de son utilisation de commun de tous les mortels. Pourquoi il faut mettre en place ce cadre théorique? Pourquoi c'est nécessaire?
Ça m'apparaît nécessaire parce que, un peu comme je le disais, là, ouais. Je m'appuie sur ce que je disais. Je crois que il y a un élément, je suis professeur de philosophie, là, ouais. Donc il n'y a rien de surprenant dans ce que je veux dire, mais les cadres théoriques ou la façon dont on approche des choses, la façon dont on les interprète, la façon dont on les comprend, a un impact majeur sur notre façon d'agir, sur notre façon de nous comporter, sur notre compréhension du monde. C'est pas différent pour ces systèmes d'intelligence artificielle, donc la représentation qu'on en a, la façon dont on les comprend, la façon dont on comprend comment ça s'insère dans nos vies, dans l'histoire, etc. Tout ça a un impact majeur sur la façon dont on va, finalement, je me risquerais à dire, apprivoiser ces systèmes, arriver à les comprendre, du moins en partie. En fait, on n'a pas besoin d'être spécialiste de l'intelligence artificielle, être capable de programmer de l'intelligence artificielle. Mais il faut comprendre ce qu'il y en est, et être capable de les insérer dans nos vies.
Donc vous disiez, Frédéric Bruno, vous êtes professeur de philosophie. Je rappelle pour nos éditeurs que vous êtes professeur de philosophie au Collège André-Laurando et professeur associé à l'École des médias de l'UQAM. Donc passons à la deuxième partie de cette entrevue, c'est sur l'éthique de l'IA, un peu de vos sujets favoris du moment. Vous avez pu même publier à propos de former à l'éthique de l'IA en enseignement supérieur et vous avez pu être présent dans différents médias spécialisés sur cette question. Qu'est-ce que l'éthique de l'IA pour nos éditeurs?
Oui, c'est une excellente question. En fait, l'éthique de l'IA, c'est le qu'on pourrait appeler là, une éthique appliquée. Là. Donc, c'est la réflexion éthique. Il existe d'autres formes d'éthique appliquée, l'éthique médicale ou la bioéthique, l'éthique environnementale, l'éthique animale. Donc, ce sont les réflexions sur les questions éthiques, les enjeux éthiques qui sont soulevés. Mais dans ce cas-ci, par le développement des systèmes d'intelligence.
On parle souvent d'éthique, même dans le cadre de l'étude de l'impact de la technologie en général. On parle souvent de l'application d'une éthique, toujours une utilisation, pour avoir une utilisation responsable de la technologie. Mais pourquoi dans le cadre de l'IA, et vous avez pu en discuter dans vos interventions passées, pourquoi c'est encore plus important par rapport au développement actuel de l'IA d'avoir cette éthique dans ce cadre de ce modèle?
C'est une bonne question. Est-ce que c'est plus important? Je crois qu'il y a une certaine urgence étant donné la portée de ces développements technologiques, étant donné aussi leur rapidité. Moi-même, je viens de l'éthique de la technologie en général. Et avec ma collègue Andréane Sabourin-Lapin, avec laquelle je travaille constamment, on aime bien préciser que c'est l'éthique de l'IA et l'éthique du numérique, en fait. Donc c'est une réflexion sur la place du numérique dans nos vies. De plus en plus, il devient un peu artificiel de faire la distinction entre les deux, parce que de toute façon, une bonne partie de notre utilisation du numérique implique des systèmes d'intelligence artificielle à différents niveaux. Il y aurait pas d'intelligence artificielle sans le numérique, là. Donc on peut voir ça un peu comme des poupées russes, la technologie. Nous, on s'intéresse à la technologie numérique. Dans le cadre de la technologie numérique, l'IA prend de plus en plus de place et soulève des questions, parfois des questions qui sont soulevées à d'autres niveaux, mais d'une nouvelle manière. Mais il y a des questions spécifiques aussi qui sont soulevées par le fonctionnement et, l'insertion sociale de ces systèmes-là en partie.
dans le cadre de l'IA et dans le cadre des questions spécifiques que vous aviez pu dernièrement, donc parler de former les enseignants et aussi les chercheurs en éthique de l'IA, et toutes ces questions aussi peuvent être appliquées même pour, peut-être pour le public général. Pourquoi vous aviez fait ce rapport? Qu'est-ce qu'on peut y retrouver dans les différentes réflexions que vous avez eues avec vos collègues comme Mme Sabourin?
Oui, ben en fait c'est le document qu'on a produit, c'est dans le cadre d'un projet de recherche qui visait à fournir des référentiels de compétences en lien avec l'intelligence artificielle. Et donc, comme travaillons sur les questions en éthique de l'IA, nous avons proposé d'en produire un. Ce que ça nous a permis d'identifier, c'est que d'abord, c'est un peu particulier de le dire, là, mais ça nous a permis de mesurer à quel point, avant de parler de compétences en éthique de l'intelligence artificielle, vous avez posé la question d'ailleurs plus tôt, il a plus réfléchi à l'idée de compétences en éthique de façon générale. Et ce qui n'est pas de mince tâche. Et donc, on a pu, à ce moment-là, découvrir des travaux qui nous ont permis de proposer un modèle assez intéressant dans lequel on insiste sur trois éléments. Il faut d'abord être capable de ce qu'on appelle la sensibilité éthique. Il faut d'abord être capable de voir, de comprendre qu'il y a des questions, des problèmes. Ensuite, il faut avoir les outils conceptuels pour être capable de réfléchir et d'agir. Et ensuite, il faut être capable d'interagir avec les autres députés, débattre, mesurer les arguments de tout un chacun. Et une fois qu'on a fait ça, ben là, on a pu appliquer ce modèle-là aux questions plus spécifiques qui sont liées à l'intelligence artificielle en insistant sur quatre éléments. D'abord, il faut comprendre comment fonctionne, j'en parlais plus tôt, là, comment fonctionne la technologie sans devenir des experts de l'intelligence artificielle, ce que nous ne sommes pas nous-mêmes. Pas programmer de systèmes d'intelligence artificielle, mais il faut minimalement comprendre le fonctionnement et les enjeux qui sont soulevés par les particularités de ce fonctionnement-là. Être capable aussi de réfléchir à la place que prend la technologie dans nos vies. Mais ensuite, il faut être capable de voir comment ces systèmes d'intelligence artificielle sont une nouvelle itération de toutes sortes de problèmes qu'on connaît depuis fort longtemps en philosophie éthique, les enjeux dans sécurité, des questions de consentement, mais là, qui prennent une nouvelle forme étant donné d'abord la rapidité, puis ensuite la prévalence de ces systèmes-là dans nos vies de différentes façons, à différents endroits. Et on a pu ensuite insister sur le fait qu'il faut aussi être capable de replacer le développement de ces technologies dans ce qu'on a appelé le contexte socio-technique, là, c'est-à-dire que là, il faut aussi faire une place au fait que, bon, on le sait très bien, là, ces technologies-là sont développées par ce qu'on appelle des géants numériques.
C'est ça.
Qui ont des intérêts commerciaux dans un contexte socio-économique. Il y a des enjeux politiques, des enjeux environnementaux aussi. Et il faut aussi être en mesure de bien comprendre les enjeux normatifs en lien avec les lois, des lois nationales et internationales, mais aussi ce qui est des codes de déontologie qui sont impliqués, et aussi c'est quelque chose qui a pris beaucoup de place aussi dans les dernières années, le développement de chartes, de lignes directrices, de déclarations sur l'IA responsable, comme celle de Montréal.
Qui viennent apporter beaucoup de questions, mais surtout, quand on voit tous ces éléments de prise en compte des changements normatifs, prise en compte des changements théoriques et des changements des habitudes de comportement par rapport à l'IA, face à une IA qui se développe extrêmement rapidement, avec des mises à jour, par exemple, on va reparler de ces modules autogénératifs comme ChatGPT, des mises à jour qui, à chaque mise à jour, on voit un développement exponentiel de la capacité de ces modules à pouvoir interagir aux demandes qu'on leur fait. Est-ce que ces questions d'éthique, est-ce que cette question de cadre théorique, de cadre de comportement pour agir face à l'IA, elle doit toujours être mise à jour? On doit suivre à la même vitesse, voire plus rapidement que quelque chose qui progresse déjà de manière exponentielle. Et ça doit vous poser un défi, non?
Oui, c'est tout un défi. En fait, pour quelqu'un qui a été formé en philosophie, c'est assez particulier là, d'avoir un sujet d'étude qui suppose d'avoir un compte Twitter et d'être pour essayer de rester
à jour,
finalement informé là, de tous les derniers développements. Puis en fait, c'est pratiquement mission impossible parce que j'entendais quelqu'un de récemment dire là, si vous n'avez pas lu dans la dernière heure, c'est que vous êtes déjà un peu en retard parce qu'il s'est passé probablement quelque chose encore une fois. Où il y a une autre opinion qui a été émise ou un autre angle d'approche qui est proposé. Donc, ça pose des défis particuliers d'abord là, dans ce sens très très rapproché finalement. Mais ça pose des défis aussi au niveau de la réflexion. Là, donc, il faut on sait que c'est un temps qui est plus long. Il faut prendre le temps d'intégrer. Donc ben, bien entendu, il faut trouver un équilibre. Là. C'est pas chaque développement technologique, chaque mise à jour qui soulève des questions, qui nous demande de repenser complètement notre cadre théorique. Mais il faut quand même se garder alerte. Ouais. Et il faut toujours aussi penser que parfois, c'est des choses qui peuvent arriver. Il peut y avoir des nouveautés ou des développements qui viennent forcer notre façon de comprendre les choses et qui viennent forcer aussi nos façons de d'interagir avec les autres et puis mettre certainement là, des développements qui viennent forcer les cadres normatifs, les lois existantes, par exemple.
Frédéric Bruno, professeur de philosophie, je voudrais, avant de passer à la dernière partie de notre revue, pouvoir faire un peu la question inversée. C'est qu'on voit ces éléments, on parle de ces éléments éthiques appliqués à l'être humain et à son cadre de réflexion, son cadre théorique. Mais est-ce que de l'autre côté, dans le cadre du développement de l'IA, des différentes lignes de code, amélioration de programme qu'on lui applique pour... aider à son développement, est-ce qu'il faudrait aussi y insérer un logiciel et une ligne de code éthique pour elle? Parce qu'on voit, par exemple, elle se nourrit des données personnelles pour améliorer son fonctionnement. Ça pose la question de consentement, la question aussi pécuniaire par rapport à certaines grandes sociétés qui utilisent cette IA et ces nouvelles données pour améliorer leur banque de données, profit, etc. et autres. Est-ce qu'il faudrait, vous pensez, mettre aussi une ligne de code éthique à l'IA?
C'est une bonne question. Évidemment, une ligne de code éthique, je comprends l'idée là. Ouais. Je pense que ça, je vais le dire de cette façon-là. Je pense que on parle parfois là, il y a toutes sortes d'appellations, là, il y a toutes sortes de débats. Là, je vais pas rentrer dans ces débats-là. Ouais. Mais juste pour donner une idée, là, on parle de certaines approches, par exemple, de ethics by design. Là, pardon, toujours en anglais. Mais bon, donc l'éthique au moment du design.
Ouais.
Donc, c'est l'idée là, que dès la conception des algorithmes, dès la conception des systèmes d'intelligence artificielle, il faudrait avoir en tête les enjeux éthiques que ça peut soulever, etc. Mm. Donc, à ce moment-là, on pourrait faire des ajustements dans le fonctionnement même. Et donc, probablement que c'est ce qui correspond le plus à l'idée là, d'une ligne de code qui permettrait de tenir compte de certains enjeux éthiques ou de certaines questions. C'est très certainement une avenue importante. Ouais. Mais il faut aussi réaliser que l'éthique, c'est aussi la façon dont finalement, une fois qu'on aura créé un système, la façon dont il va d'abord se comporter, parce qu'on sait que c'est des systèmes apprenants, là, donc on peut pas une fois pour toutes avoir réglé toutes ces questions, mais plus encore, ce sont des systèmes qui s'insèrent dans des pratiques sociales, qui s'insèrent dans des habitudes comportementales, et tout ça aussi, là, les enjeux éthiques qui relèvent de l'IA viennent de là aussi. Puis là, bon, on pourra jamais programmer ces choses-là, on pourra jamais tenir compte de ça, donc je dirais c'est très certainement un élément dont il faut tenir compte. Là, d'ailleurs, on insiste souvent sur le fait que, bon, par exemple, les équipes qui vont concevoir ces systèmes d'intelligence artificielle et les développer, sont des équipes qui sont peu diversifiées ou, par exemple, c'est principalement des hommes. Et donc, c'est un exemple. C'est pas le seul, mais c'est un exemple où là, on se dit, ben, il est pas étonnant.
Apporter plusieurs points de vue. Hein.
Ouais. Oui, c'est ça. Ben, il est pas étonnant que, bon, ça puisse se retrouver là. Ouais. Mais c'est pas non plus simplement en changeant ça que toutes les questions vont être réglées non plus.
Deux dernières questions pour terminer cette entrevue qui est extrêmement intéressante, Monsieur Bruno. Ma première, c'est quelle suite à l'IA actuellement, celle qu'on voit là, les agents conversationnels. Qu'est-ce que vous pensez, comment ça va évoluer? Et ma deuxième, c'est, on parle souvent d'intelligence artificielle en ce moment, mais beaucoup ont peur, et ça revient un peu sur les peurs et peut-être la caricature que vous parliez au début d'entrevue, mais est-ce que cette intelligence artificielle pourrait, telle qu'elle évolue en ce moment, devenir collective et à partir de là, tout changerait?
Donc, par rapport à la première question, c'est je suis pas très bon là, ouais. Les boules de cristal, c'est vraiment pour rire. Mais c'est très difficile étant donné les développements fulgurants.
Ouais. De prédire et de prendre la boule.
Il y a quelques mois encore, c'est simplement quelques mois que Chad.
Ouais.
Dans le sens, ça a un peu tout changé. Et là, tout le monde parle de ça, mais faut prendre note aussi de la nouveauté de ce type de système-là. Très difficile, là, d'anticiper qu'est-ce qui va arriver. Mais, bien entendu, ce que je disais, bon, c'est peut-être pas une grande déclaration, là, mais on peut s'attendre à ce que qu'il y ait d'autres systèmes, puis qu'il y ait toutes les sphères de notre vie continuent à être grandement chamboulées et modifiées par le développement de toute une panoplie de systèmes. Si on prend l'exemple de ChatGPT, ben, partant de ce modèle, on dit parfois des modèles fondationnels. Donc, partant de ça, il y a toute une série, puis à tous les jours, il y en a des nouvelles, toute une série d'applications qui font des trucs là, plus spécifiques, plus précis.
Des chatbots spécifiques et tout ça.
Oui, c'est ça, qui peuvent fonctionner grâce en ayant comme en arrière-plan, finalement, ce modèle fondationnel. Donc, on peut probablement prévoir là, que ce type de développement-là, où là, on a un modèle fondationnel là, qui vient...
On va avoir des modèles un peu plus spécifiques qui vont pouvoir aider
ensuite,
sur différentes tâches.
Toute une série d'applications là, qui sont développées là, par des petites entreprises pour nous proposer une panoplie de différentes applications.
Bah, merci beaucoup, Monsieur Bruno, d'avoir été avec nous ce midi. Vous revenez quand vous souhaitez pour discuter de ce sujet. C'était extrêmement intéressant. Frédéric Bruno, professeur de philosophie au Collège Laurando et aussi professeur associé à l'École des médias à l'UQAM. Merci beaucoup d'avoir été avec nous au Monde d'aujourd'hui.
C'est moi qui vous remercie.
Merci à vous.
Au plaisir.
Au plaisir. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour le monde d'aujourd'hui. Julien Corona au micro, Daniel Fortin à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro avec comme invité Stéphane Bureau. Bonne journée à tous.